pour se mettre les meilleurs amis. Ils connaissent bien notre vie. Les confidences de la dernière danse conduisent-moi à l'impotence. Ils pour se mettre le prolétaire. Ne cherchant que ce qui va l'affaire. Les jours de fête et puis les militaires. Ils saluent la canaille sur médaille. Jamais on peut tout halluciner. Quand la vie d'un se monte à la tête, tellement des gens sur la comète. Il faut se mettre les pétitions, les défilés de la signalation. Le chou de la taille c'est le détail, qui fait la sauce des
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et c'est Jeudi Noir qui commence pour la 199e émission, en compagnie de Michel, et que vous entendrez dans un instant, et José moi-même. Et on va vous faire encore une spéciale bouquin, donc la queue du littéraire, une dizaine ou plus de bouquins chroniqués en une heure, avec la musique qui va bien, comme d'habitude. Vous connaissez. Donc là, on vient de passer justement en musique. Varumjo, un morceau de 1983 qui s'appelait « Un conflit intérieur ». Un conflit intérieur, parce qu'on va parler de conflit intérieur-extérieur avec le premier bouquin chroniqué. C'est un bouquin qui a été publié en 1923 aux éditions de La Talente, et qui s'appelle « Le premier jour de paix » de Elisa Béram. C'est un bouquin qui a pas mal fonctionné au niveau médiatique. J'ai lu pas mal d'interviews d'Elisa Béram, de chroniques de son bouquin en tout cas. Voilà, et c'est assez mérité. Donc c'est une autrice qui en est à son deuxième roman. J'ai pas lu le premier. Elle est née en 90, donc voilà, c'est vraiment très, très actuel, une autrice contemporaine. Et ça parle, alors vous allez voir que je vais chroniquer pas mal de bouquins qui se passent dans un futur assez proche, où étonnant ou pas, croyez-le ou non, mais il y a des ravages climatiques. Et le réchauffement serait passé par là, tout ça. Mais, ce ne va pas être des bouquins post-apocalyptiques déprimants. On va faire mieux. Et donc Elisa Béram, là, elle a décidé de prendre ce futur pas très reluisant du côté de la paix, justement. Donc on est en 2098. Le monde est ravagé par la sécheresse et tout ça. Il y a plein de populations isolées de part et d'autre dans le monde. Évidemment, dans des situations de crise, il y a plein de conflits. D'où le rapport avec le morceau de Varumjo. Plein de conflits. Et pour ça, le monde, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire pour pouvoir passer outre tout ça et réussir à reconstruire un monde? Eh bien, de dépêcher de par le monde des émissaires. Donc on suit en particulier une émissaire tout au long de l'histoire, mais on en croise d'autres, on croise plein de personnages, qui est spécialisée donc dans la résolution de conflits. Donc il n'y a plus trop de pétrole, il n'y a plus trop d'énergie, etc. Donc elle se balade avec un vieux Solex un peu à droite à gauche, et quand elle tombe sur un village, elle demande est-ce qu'il y a de la frite par ici? Ça se latte entre le chef du village et machin qui veut pas de chef de son village, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc elle fait dialoguer les gens, elle est médiatrice, et fait en sorte de rapporter un petit peu de paix dans les situations conflictuelles. Et puis aussi, elle propose aux personnes qu'elle rencontre d'aller en refuge dans des plus grandes villes qui sont en pleine reconstruction. Donc voilà, qu'elles acceptent ou pas ces personnes-là. Alors bon, c'est donc un petit peu solarpunk. Hein. Solarpunk, je vous en avais parlé, c'est un peu du post-apo, mais positif. On cherche des solutions plutôt que de faire des bouquins déprimants comme il y en a beaucoup. Donc c'est plutôt un bouquin positif. Après, alors il y a plein de bonnes idées, les persos sont sympas, c'est super bien écrit. Après, la principale critique qu'on peut faire, c'est que c'est un petit peu naïf. C'est vrai que tout ce qui est résolution de conflit, quand c'est des histoires de « oui, mais il m'a piqué ma pomme de terre en croyant que c'était la sienne », oui, ça peut se résoudre par le dialogue. Après, elle aborde pas des vrais conflits, parce que parfois il y a de vraies raisons de se foutre sur la gueule, hein. des dissensions qui ne se résoudront pas juste par une médiatrice. Il y a juste des conceptions différentes du monde. Chacun veut tirer dans sa direction, et ça va pas se résoudre comme ça, n'est-ce pas? On fait pas de schéma. Je pense qu'il y a des choses à l'heure actuelle qui pourraient illustrer ça assez facilement. Voilà. En tout cas, c'est un super bouquin que je vous conseille. C'est Elisa Béram, Le premier jour de paix. Publié en 2023, édition de La Talente.
Et s'ils filent tous dans la lune, qui restera garder notre terre avec ses dunes, ses mers, ses vergers? Et s'ils cultivent les planètes, qui gardera les yeux sur les blés, les pâquerettes, les forêts de nos aïeux? Eh bien va, nous serons les concierges de la terre qu'ils nous auront donnée, et nous frôlerons les 120 berges puisque nous pourrons nous promener, et nous ferons sans nous presser quelques petits jardiniers. Et s'ils nous envoient des nouvelles, s'ils nous disent venez par là-haut, la vie est belle, on est plus léger, on a trouvé dans les étoiles un fruit qui fait vivre 1000 ans, une usine monumentale en fait un liquide blanc, et bien va, nous soignerons les vignes de la terre à ces nouveaux matins, et à moins d'avoir bien de la guigne, nous en tirerons de beaux raisins, et nous ferons peut-être bien de petits buveurs de vin. S'ils nous disent leurs découvertes, leurs hivers phosphorescents, où tombe une neige verte, leurs étranges océans, plus dépeuplés qu'une mer morte, mais cerclés de gros oiseaux blancs, dont la chair le diable l'emporte, et mi-vache, mi-merlan, eh bien va, nous irons à la fraîche, sur la mer qu'ils ne connaîtront plus, et rapporterons de notre pêche les plus vrais poissons que l'on ait vus, et nous ferons à temps perdu de petits pêcheurs de plus. Un jour, après un long périple, ils reviendront chez nous à bord d'une fusée triple en métal de n'importe où. Là, pensant trouver une lune pas encore explorée, s'émerveilleront voyant une plaine verte et des champs dorés. Alors va, nos fils sauront leur dire qu'on n'est pas si mal sur ce plancher, qu'on y prend encore le temps de rire, qu'on y prend encore le temps d'aimer, mais qu'ils peuvent toujours rester comme apprentis jardiniers. Comme apprenti jardinier.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour son émission littéraire avec Michel et José. Et donc moi je voulais vous présenter, après ce morceau d'Anne Sylvestre, S'ils filent tous dans la lune, un livre de Ian MacDonald, dont j'avais déjà présenté, je crois, Le fleuve des dieux, ici. Et là c'est Luna. C'est une saga. J'ai lu que le premier tome, mais ça commence assez bien. Alors, ça mélange pas mal de choses. Une des raisons de ma passion pour la science-fiction, c'est que j'y trouve toujours l'occasion de. Enfin, moi, j'y vois souvent une réflexion politique où les auteurs ont la possibilité de faire, ou les autrices ont la possibilité d'imaginer un monde avec des conditions, d'autres conditions, et de voir ce qui se passerait, en quelque sorte. À partir d'une espèce d'hypothèse comme ça. Et là, l'hypothèse, c'est la Lune est colonisée par l'humanité parce qu'on a trouvé le moyen d'exploiter des choses, des énergies présentes sur la Lune qui permettent à la Terre de s'en sortir. Mais sur la Lune, il n'y a pas d'autorité nationale, il n'y a que des autorités liées finalement à des espèces de grandes familles qui ont pris le contrôle. Et donc c'est plutôt féodal. Donc il y a 5 grandes familles qui se partagent plus ou moins pacifiquement les différents moyens de se faire beaucoup de pognon sur la Lune. Et puis ensuite il y a tout un tas de gens qui vivent de ça. Et c'est un système dans lequel donc, il n'y a pas d'autorité étatique, il n'y a pas non plus de, à proprement parler, de police, d'armée ou choses comme ça. Et toute la justice est de gré à gré. C'est-à-dire, il y a des cours de justice, mais tout est contractuel. C'est-à-dire que si vous acceptez un contrat immonde, pour vous, ben, tant pis pour vous, vous l'avez accepté et personne n'ira comment dire, vous sauver de ça. Et par ailleurs, comme on est sur la Lune et que c'est un milieu qui est extrêmement hostile à la vie humaine, à toute vie en général d'ailleurs, mais à la vie humaine en particulier aussi, ben, toutes les constantes vitales, en quelque sorte, tout ce dont on a besoin, va être faire partie d'une espèce de compte dont on dispose. Et donc on a un compte oxygène, on a un compte ceci, on a un compte cela. Et vous pouvez tout à fait finalement mourir à moitié étouffé parce que vous, il n'y a pas de minimum vital, si vous voulez, qui serait assuré. Donc soit vous travaillez, vous avez ce qu'il faut pour alimenter votre compte, soit vous mourrez. Donc c'est un monde complètement impitoyable, et ça c'est la base, un petit peu l'espèce de tableau général qui présente cet univers. Et ce qui va se produire dans le roman, c'est finalement les stratégies qui opposent et unissent les cinq grandes familles qui dominent la Lune. Et là, ça se transforme un petit peu en Games of Thrones sur la Lune, c'est-à-dire que on s'entretue, on passe des accords, on trahit les accords à cause d'un autre accord secret. Enfin bon, bref. Et donc c'est, y a tout un côté suspense parce qu'en fait, on ne sait pas exactement qui est dans quel camp, puisque tout ça est extrêmement machiavélien. Et donc c'est pour ça que c'est une saga qui va suivre une famille en particulier, la dernière des familles arrivées, et celle qui est la moins bien installée et la moins solide. Voilà, donc c'était Ian MacDonald, Luna. Vous trouvez ça en Folio SF, c'est un bon petit bouquin.
Radio Libertaire 89.4, c'est toujours Jeudi Noir qui se poursuit avec cette présentation de bouquins. Donc on va aller un petit peu plus vite et je vais vous présenter un bouquin qui s'appelle L'Usine, qui a été écrit en 2013 par une autrice japonaise, Hiroko Yamada. Ça a été traduit en 2021, c'est récent. Je crois que c'est paru chez Christian Bourgois de mémoire. Bourgeois, c'est Bourgois, moi. Ah, c'est un bourgeois, ça je sais. Mais bref, Hiroko Oyamada, L'Usine. Alors, L'Usine, c'est un bouquin assez court qui raconte. Ça se passe dans un énorme complexe industriel, donc d'où le titre L'Usine, qui fabrique. On ne sait pas trop quoi. Hein, on suit trois employés qui viennent d'être embauchés et qui se demandent un peu ce qu'ils font là. On a une déchiqueteuse qui est là toute la journée, qui déchiquette ce qu'on lui dit de déchiqueter comme document. Et c'est à peu près tout et n'importe quoi, donc elle n'arrive pas trop à savoir ce que cette usine fabrique. Il y a un correcteur aussi, il est là pour corriger les fautes d'orthographe sur des plaquettes, des documents internes, et tout parle de tout et n'importe quoi également. Il est là, il se demande ce qu'on lui donne à corriger. Apparemment, tous les chefs se foutent un petit peu du boulot des employés, ça n'a pas l'air très important. Ils engagent aussi un biologiste spécialiste des mousses, parce qu'ils veulent mettre des mousses dans l'usine. Mais le gars n'a aucune obligation, il est là pour étudier les mousses qu'il y a dans l'usine, voilà, et faire des rapports. Et dans cette grande usine, qui est en deux parties, reliée par un pont, un gigantesque pont, il y a aussi des oiseaux étranges. Il y a plein de choses étranges. Je ne vais pas tout vous raconter. Alors, c'est vraiment sous le signe du réalisme magique, comme on dit en littérature, où il y a un petit fantastique qui est là, mais qui est juste à peine là, qui est juste assez présent pour rendre les choses réalistes, étranges. Et ça parle surtout, en fait, le thème, c'est sur l'aliénation du travail. Hiroko Yamada aime beaucoup parler du travail dans ses écrits, sur le manque de sens du travail. C'est juste un très beau bouquin. C'est une atmosphère très douce, très étrange. Et en même temps, ça parle de choses sociales très importantes, comme le travail. Pour illustrer ça, on avait passé le morceau Les Usines de Selenite Vox, un groupe du Havre de 1982.
Spoiler dat er geen goeie vruchten in mijn gezinnen zijn.
En de nazi's zijn dan al in bloei. Maar ook de Serie de Japon. En de personnes. Les animaux blancs.
Le lot.
temps, prends-le, allez, profitez-en, là, c'est la fin.
Radio Libertaire, c'est toujours Jeudi Noir qui continue et je vais là on vient d'écouter Mammouth, un groupe bruxellois en partie, un duo, et le morceau s'appelait comment ? Il s'appelait Le Trou de Renard. Pourquoi Le Trou de Renard ? Parce que le bouquin dont je vais vous parler s'appelle Le Trou. Et quelle est l'autrice ? C'est Hiroko Yamada, vous connaissez ? Bah oui, si vous étiez là il y a 5 minutes, j'en ai déjà parlé, donc cette autrice japonaise. Et encore un super bouquin, donc c'est son deuxième bouquin traduit en France, il a été écrit en 2013 et traduit en 2023. Petit décalage de 10 ans. Voilà, donc ça parle d'une jeune femme qui quitte la ville et son travail pour aller à la campagne, dans une maison, et elle suit son mari qui lui a été muté. Et ils vivent à côté de la maison de ses, elle vit à côté de la maison de ses beaux-parents, hein, des parents de son mari. Et bah, c'est la cambrousse, elle a plus de travail, elle a une maison, elle a la belle-mère à côté, elle se fait un peu chier. Voilà. Donc elle se promène, elle se balade, elle essaye de parler aux gens. Tout est un peu normal et en même temps étrange. Bah oui, c'est Hiroko Yamada, réalisme magique, tout ça. Donc il y a toujours des petites choses un peu décalées. Et justement, au cours d'une de ses promenades, elle tombe dans un trou. D'où le titre, Le Trou. Un petit trou, hein, rien du tout, c'est un trou à taille humaine. Et à partir de là, le récit commence à vriller un peu. Donc je dévoile pas plus parce que c'est vraiment aussi encore un bouquin assez court. Mais tout ça pour dire que là encore, on a une critique du travail, critique du couple, de la famille, des normes sociales en général. Voilà, et c'est toujours très fin, c'est ambiance un peu Totoro. C'est pas juste pour le côté Japon, c'est pour le côté un peu contemplatif, paysage, bucolique et en même temps profond, touchant. Voilà, moi je suis assez fan de cette autrice. Je vais voir s'il y a d'autres choses traduites parce que je maîtrise pas encore bien le japonais. Voilà, Hiroko Yamada, Le Trou.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Vous venez d'entendre Compressor Head, My Girlfriend the Robot, qui est une reprise des Hanson Brothers. Les Hanson Brothers étant un groupe dérivé du groupe No Means No. No Means No étant un groupe dérivé de... Non, je devais vous parler d'un livre. Et donc ce livre, c'est plusieurs livres en réalité, c'est beaucoup de nouvelles. D'un auteur dont je vous avais déjà parlé, je vous avais présenté le cycle de Fondation d'Asimov. Et avant Fondation, il y a le cycle des robots. Alors, c'est pas mal de nouvelles qui ont été écrites sans forcément qu'Asimov ait l'idée qu'il en ferait un, qu'elle n'y enlève la base de son cycle Fondation, et pourtant, c'est un peu ce que c'est. C'est-à-dire que vous avez énormément de nouvelles très très brèves, parfois avec une espèce de valeur poétique assez étonnante dans leur brièveté, où un enfant joue avec un robot, et puis il se passe des choses, bon. Et petit à petit, il va développer son, comment dire, son univers de robot avec les trois lois de la robotique, qui sont assez célèbres, même si je ne les connais pas par cœur. Et petit à petit, donc, cet univers va s'étoffer, les robots prennent de la place dans le monde, et ça va donner lieu à des grands romans comme Les Cavernes d'Acier ou Face au Feu du Soleil, où il développe, tous ces thèmes, et il pose les bases insidieusement de l'empire qui donnera naissance à la Fondation. Donc l'empire terrestre, enfin comment dire, l'empire humain galactique qui s'effondre, et puis la Fondation qui vient le sauver. Et là, en fait, il y a des personnages qui sont posés dans le grand livre des robots, édité chez Omnibus en deux volumes. Donc vous avez un premier, c'est Prélude à 30 Thors, et puis un deuxième, La Gloire de 30 Thors. Donc vous avez tout un tas de beaucoup de petites nouvelles. Quelques romans vraiment bien qui posent les bases pour la suite. Donc voilà, si vous aimez Asimov, c'est la science-fiction qui a un peu vieilli, en particulier au niveau de la caractérisation. Les personnages mâles sont très très virils. Donc ça peut un peu agacer. Autrement, c'est quand même, ça reste agréable à lire.
Radio Libertaire, c'est Jeudi Noir qui se poursuit, donc toujours spécial littéraire. Alors là, je vais vous parler, c'est pas un roman. Bon, en tout cas, c'est un bouquin écrit... alors d'abord, j'annonce, c'était le morceau le groupe The Homosexuals, avec le morceau Astral Glamour. Astral, vous allez voir le rapport, donc un morceau anglais de 79. Et donc c'est une autrice quand même, une autrice de SF. Une jeune autrice de SF qui a écrit des nouvelles qui figurent dans certains recueils aux côtés d'autres nouvelles de gens un peu connus comme Catherine Dufour, Philippe Curval, l'excellente Sabrina Calvo, Stéphane Beauverger dont on avait parlé ici avec le Déchronologue, le pénible Alain Damasio, Mélanie Fazi, Luvan, etc., etc. Alors là, le bouquin s'appelle Astrotruc et c'est écrit par Maëva Stéphane Bugny. Voilà, c'est sorti en 2021, j'ai un petit peu de retard, ça fait longtemps que je vais le chroniquer, mais c'est pas facile à définir ce bouquin. Donc, j'ai pris mon temps. Alors au départ, c'était Astrotruc, c'était un compte Instagram, très très suivi, je sais plus combien, genre 350 000 followers, trucs comme ça. Et ça a attiré un peu les maisons d'édition qui voulaient une version bouquin. Et donc Maëva Stéphane Bugny a pris ce travail très très au sérieux, n'a pas fait un bouquin juste pour se faire un peu d'argent, mais a fait un sacré pavé. Alors déjà le bouquin, on voit le rapport avec on voit l'autrice de SF quand même, parce que le bouquin est complètement, chromé, un peu comme les petits clins d'œil aux éditions Ailleurs et Demain. Vous savez, les gros bouquins de Frankie Herbert, les Dunes originaux, les Johanna Russ, Ursula Le Guin, tout ça, là, tout brillant, là. Voilà, bah c'est comme ça. Donc c'est un beau bouquin, c'est un gros pavé avec plein de pages couleurs. Et de quoi ça parle? Bah, Astro Truc, ça parle d'astrologie. Astrologie sur Radio Libertaire, parce que ça manque d'horoscope. Voilà. Donc je vais vous lire votre horoscope. Donc le troisième décan Bélier, non, je n'y connais rien. Non, je vais vous parler du bouquin. Donc, je reviens là. Donc ça, c'est un bouquin qui ne parle pas vraiment d'astrologie de manière sérieuse, et en même temps, si. Ça parle beaucoup de pop culture, mais pas pour parler que de pop culture. C'est un bouquin très déroutant, où se mêle à la fois un côté hyper sérieux, parce qu'on apprend des choses sur comment faire son thème astral, quand même, et en même temps, sans y croire du tout. Il y a de l'ironie, du sérieux, il y a beaucoup, beaucoup d'humour, beaucoup, beaucoup de pop culture, comme je l'ai dit. En tout cas, quand on ouvre le bouquin, on tombe sur une page avec un message dans les étoiles qui dit « Tu es dans la merde ». Voilà. Et une des citations d'ouverture, c'est « Je ne crois pas à l'astrologie, je suis sagittaire, et les sagittaires sont sceptiques ». Une phrase de l'excellent Arthur C. Clarke. Voilà. Et donc, Maëva Stéphane-Bugny explique l'astrologie, évidemment qu'elle n'y croit pas, mais en même temps, c'est un outil pour pouvoir parler de plein, plein d'autres choses. Donc, elle le fait avec un grand sérieux. Le bouquin est une mine, si vous voulez avoir des conseils au niveau de séries, de films, de bouquins, de philo. Alors après, il y a plein de références pop que j'ai pas, parce que je passe que 90% de mon temps sur Internet, donc ça ne suffit pas pour connaître toutes les réflexions, toutes les références, pardon. Mais voilà, au hasard, voilà, on va avoir Ocmo Puccino, Serge Tankian, Lady Gaga, Kurt Cobain, Nina Simone pour les plus connus, d'autres gens que je ne connais pas, mais on va avoir aussi N.K. Jemisin, qu'on a chroniqué ici, voilà, etc. En tout cas, super bouquin, Astro Truc, décryptez votre thème astral avec la pop culture de Maëva Stéphane-Bugny, je vous le conseille.
Thank you. C'est Jeudi Noir qui se poursuit, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui continue. Vous venez d'entendre un groupe qu'on aime beaucoup ici, du reggae. C'était le morceau Don't Integrate, Disintegrate. Et c'est un morceau qui est tout à fait adapté pour vous présenter le roman qui était prévu. C'est un roman d'Hervé Brison, initialement publié en 2000 et qui a été republié aujourd'hui par une Terrasse Édition. Et le titre, c'est donc Hervé Brison, le titre c'est La vie rêvée de Sainte Tapiole. Et donc c'est l'histoire, je vais pas trop spoiler quand même, c'est l'histoire d'un jeune homme, queer, qui va en quelque sorte dans la lignée de... Alors il a une naissance terrible, hein, il naît sur un terrain de golf parce que sa mère est écrasée par un éléphant, c'est en Afrique, un éléphant s'introduit sur le terrain de golf, écrase sa mère, qui accouche dans un dernier râle et lui donne naissance. Et donc il va se retrouver élevé par un premier père qui a profité de cet accident pour l'adopter un peu brutalement, disons, et puis ensuite il est élevé par un couple de femmes, et ils viennent en France, et là, commence tout pour lui, il va monter à Paris, et alors c'est un truc, quand on pense que c'était publié en 2000, en fait je pense qu'aujourd'hui ce serait quasiment plus publiable. C'est pas un gay qui veut s'intégrer, c'est un gay qui veut détruire la société dans laquelle on vit, hein, et pas forcément pour dans un but nihiliste, pour que tout le monde y vive mieux. Donc, et donc ça se termine quand même. Enfin, ça se termine. C'est le but du jeu, c'est qu'en fait, ils finissent par monter des groupes terroristes qui font exploser tout un tas de trucs afin de faire une espèce de révolution gay et d'imposer une nouvelle normalité gay dans laquelle évidemment il se sent mal et qu'il a envie de fuir aussi sec. Et donc voilà, un roman de 2000, Hervé Brison, La vie rêvée de Sainte Tapiole. C'est assez leste à ne pas mettre entre toutes les mains, en particulier peut-être les plus jeunes, je sais pas, à vous de voir, mais ça a l'air vachement bien.
Des allumettes, la passion ne t'effraie guère. Les incendies ravageurs sont déclenchés. Tu te refuses d'y penser. Ne subsiste plus qu'un sol fertilisé par les cendres que la vie a derrière elle laissé. Pyromane. Tu fous le feu. T'es malade. Ne joue pas avec ma flamme. T'es malade. Ne joue pas avec ma flamme. Pyromane. Tu fous le feu. C'est pas bien. Tu fous le feu. Pyromane. Tu fous le feu. C'est pas bien. Malade, ne joue pas avec ma flamme, t'es malade. Ne joue pas avec ma flamme, t'es malade. Ne joue pas avec ma flamme. Le craquement des allumettes, la passion ne t'effraie guère. Les incendies ravageurs sont déclenchés. Tu te refuses d'y penser. Ne subsiste plus qu'un sol fertilisé par les cendres que la vie a derrière elle laissé. Pyromane, tu fous le feu. C'est pas bien. Tu fous le feu. T'es malade. Ne joue pas avec ma flamme. T'es malade. Ne joue pas avec ma flamme.
Radio Libertaire 89.4, c'est Jeudi Noir qui se poursuit. Là, on vient d'entendre l'ami Ozibut avec le morceau Pyromane. Pourquoi Pyromane ? Parce que y a un des personnages dans le bouquin qui l'est un petit peu. Et le bouquin, c'est Les Sentiers de la Recouvrance d'une autrice qui s'appelle Émilie Kerbalek. Kerbalek, quel super nom quand même. Ça mêle la Bretagne et la Balek attitude. J'adore, j'aimerais m'appeler comme ça. Alors cette autrice est née au Japon en 71, hein, pour vous situer, donc c'est encore une autrice actuelle. Donc, je crois d'ailleurs que le japonais était sa langue, une de ses langues premières d'ailleurs. Mais ce bouquin-là a été écrit en français directement en tout cas. Ça se passe en 2035 et devinez quoi ? Il fait chaud. Voilà, il y a un nouveau réchauffement climatique, sécheresse, etc. Et dans ce bouquin, on suit deux personnages, deux ados. Il y a Anastasia qui vit en Espagne, qui a du mal à trouver de l'eau. Et on a Hayden qui est un jeune ado qui est plutôt banlieusard de je ne sais plus où exactement. Et qui aime bien jouer avec le feu lui. Hein. Autant Anastasia cherche l'eau, lui il cherche plutôt le feu. Et ces deux ados, parallèlement, sont un peu poussés pour diverses raisons de chez eux et prennent la route. Ils prennent la route et évidemment, on est sûr qu'ils vont se croiser. Là, je ne spoil pas grand-chose parce que c'est vraiment dans la narration. Mais à la croisée des chemins, il va y avoir également un gros changement de direction dans ce roman. Et là, je ne peux rien vous dire parce que c'est très inattendu. En tout cas, ça reste à nouveau comme les bouquins que j'ai présentés au début. C'est pas du post-apo déprimant, c'est plutôt optimiste. C'est délicat, c'est inattendu, comme je l'ai dit. C'est varié, c'est super bien écrit, c'est bucolique. Je vous conseille de lire Les Sentiers de la Recouvrance d'Émilie Kerbalek. Là aussi, on est dans un peu plus SF, mais aussi un petit peu réalisme magique. J'aime bien cette expression-là aujourd'hui. C'est pas rien, c'est Enfance Sauvage. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé du Enfance Sauvage avec un morceau Nous les Chiens sur Radio Libertaire. Toujours Jeudi Noir qui se poursuit. Pourquoi Nous les Chiens ? Parce que c'est un rapport avec le bouquin. Non, hyper lointain. C'était juste pour le plaisir de réécouter Enfance Sauvage. Il y a un chien dans le bouquin que je vais vous présenter. Voilà, qui est important quand même. Donc c'est un livre d'une autrice franco-états-unienne, mais je crois un peu plus franco d'après ce que j'ai vu, mais je ne la connais pas trop. Née en 87, encore très très actuelle. Donc le bouquin s'appelle Alien, Alien avec un E, comme aliéné un peu. Et l'autrice s'appelle Phoebe Hadjimarcos Clark. Phoebe Hadjimarcos Clark a publié ce bouquin en 2024, et actualité, aux éditions du Sous-Sol. Et elle l'a dit plusieurs fois qu'elle écrivait de la SF queer. Voilà. D'ailleurs, elle en parle dans un podcast que vous pouvez trouver facilement sur Internet pour je ne sais plus quelle radio. Et c'est un échange avec Sabrina Calvo, que j'évoquais tout à l'heure, l'excellente Sabrina Calvo, chroniquée ici également. Voilà, pour savoir ce que c'est que l'ASF queer selon elle. Alors, ce bouquin Alien raconte l'histoire de Fauvel. Fauvel, c'est une jeune femme ado, voilà, qui se retrouve avec un petit boulot de dog sitting. Elle est gardée un chien à la campagne, le chien qui s'appelle Anna. C'est pas un chien comme les autres parce que c'est un clone. C'est le clone d'un chien qui a été empaillé, qui est là qui trône dans le salon, et il y a le chien vivant cloné à côté. Alors, et Fauvel, elle a une particularité aussi, c'est qu'elle a perdu un œil à cause d'un accident de LBD. Hein, ça arrive. Donc, c'est pour vous dire que ça se passe vraiment dans un univers très réaliste. Hein, on parle de gilets jaunes. D'autres choses, parce que je vais vous dire quel thème était abordé. En tout cas, là aussi, on est dans une sorte de réalisme magique, parce que c'est très, très ancré dans le présent, mais il y a des éléments fantastiques qui apparaissent petit à petit. Alors, c'est très dense, c'est très riche, dans un univers complètement cohérent. Ça ne part pas dans le nawak du tout. En tout cas, voilà, ça traite de plein de sujets. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais ça parle de la condition animale, de la chasse, de l'isolement et de ses effets. L'isolement à la campagne, par exemple, pour une certaine jeunesse. De la sécheresse, hein. On est encore là-dedans évidemment, vu que ça se passe dans un futur très proche, les manipulations génétiques, les questions de genre, l'homophobie, plein de choses. Je vous conseille vraiment, ça a été une super lecture, Alien, de l'autrice Phoebe Hadjimarkos Clark. J'ai pas préparé le morceau d'après, alors je vais faire une petite manip, et hop, il est là, et devinez quel groupe ça va être. We'll be right back.
Bonsoir, c'est Radio Libertaire 89.4, la radio sans dieu ni maître ni publicité qui se poursuit avec... Enfin, l'émission Jeudi Noir s'y poursuit. Et vous venez d'entendre un morceau du groupe mondialement connu.
C'était
No Means No, évidemment. Et donc, et c'est un morceau dont vous avez sans doute entendu le refrain et que vous connaissiez par cœur et que vous avez chanté avec moi. C'est Big Dick. Et donc, pourquoi Big Dick? Parce que je vais vous présenter Moby Dick. Voilà, ça c'est José qui a fait la blague. Et c'est honteux, on va le virer, ça suffit, cette blague à deux balles, là. Et donc... Alors Moby Dick, ça fait partie des classiques que je voulais vous présenter en 1 minute 30 parce que j'aime bien vous présenter des pavés classiques d'une minute, en 1 minute 30. Mais là j'avais une raison supplémentaire, c'est qu'il y a quelques années il a été retraduit. Jusqu'ici il y avait les traductions de Giono qui étaient assez jolies. En anglais c'est à moitié illisible parce que vous avez du vocabulaire biblique, de la pêche et les tournures de phrases de Melville. Donc c'est quand même un peu Mission Impossible. Et là donc une nouvelle traduction de Philippe Jaworski, qui est un spécialiste de Melville, un angliciste reconnu. Et donc c'est chez Quarto Gallimard, dans une édition avec beaucoup plus d'un appareil critique et puis des textes pour éclairer le livre qui sont pas mal. Alors si vous connaissez pas l'histoire de Moby Dick ou le cachalot de Melville, auteur américain donc du 19e siècle, ça se présente comme une histoire toute simple de vengeance. Un homme à moitié fou, à cab, veut partir à la chasse d'un cachalot blanc géant qui s'appelle Moby Dick et qui, comment dire, est extrêmement intelligent et dangereux. Donc ça va être l'occasion pour Melville de décrire le monde des baleiniers avant que ça devienne une espèce d'entreprise automatisée avec des armes extrêmement efficaces. Donc là on voit des gens qui partent sur les chaloupes à trois chaloupes essayer d'attraper des cachalots géants. Et alors c'est un livre qui est assez curieux parce que dit comme ça on pourrait avoir l'impression que c'est un livre d'aventure, mais en fait pas du tout. C'est un livre c'est un livre sur la vengeance, un livre sur les types de baleines que vous pouvez trouver dans l'océan. Vous avez environ 30 ou 40 pages de classement zoologique des baleines. Et vous avez tout un tas de descriptions complètement folles, de tout un tas de trucs dans la pêche à la baleine. Donc c'est pas du tout un livre d'aventure. Certains trouveront ça sans doute extrêmement chiant. Mais moi je vous le recommande chaudement parce que c'est quand même un excellent livre. Voilà.
C'était quoi ?
C'était Moby Dick, donc de Melville.
Collé sur la plume dans vos vies, je m'installe. Dans ma chambre, c'est la brume, ils me disent instable. Mais je me sens mieux ici que sur un piédestal. On n'aime pas pour de vrai quand on aime sur Insta. Oh et oh, dans tout ça, je m'oublie. J'en perds les mots, c'est que tout est fini. Alors j'appelle mon alter ego. Il ne reste que lui, tu comprendras mieux sur les raisons pourquoi je souris. T'as harcelé Rihanna, mais dans ma tête, c'est la brume. Des hommes sur l'instrumental. Je crois que je viens de la faire sourire et moi j'y ai victoire. Elle me donne un océan d'amour, je ne suis qu'un nénuphar. J'écoute du Cabrel et j'écoute du Niska. Un bonheur à l'infini, j'en veux 2, 3, 4. Des rêves grands comme le monde, mais le monde est si étroit. Si je lui pardonne, est-ce que le chagrin s'efface? T'as harcelé Rihanna, mais dans ma tête c'est la brume. Pourquoi en faire des thunes? C'est la brume. Pourquoi en faire des thunes? Une vie, on en a qu'une. Oh et oh, dans tout ça, je m'oublie. J'en perds les mots, c'est que tout est fini. Alors j'appelle mon alter ego. Il ne reste que lui, tu comprendras mieux sur les raisons pourquoi je souris. Oh et oh, dans tout ça, je m'oublie. J'en perds les mots, c'est que tout est fini. Alors j'appelle mon alter ego. Il ne reste que lui, tu comprendras mieux sur les raisons pourquoi je souris.
Eh bien,
C'était Meryl, l'artiste martiniquaise, featuring Le Motif avec le morceau La Brume sur Radio Libertaire 89.4. On passe pas assez de R&B avec de l'autotune sur Radio Libertaire, c'est le problème. Voilà pourquoi Meryl La Brume, puisque je vais vous parler, c'est Jeudi Noir en fait, hein. Toujours pour finir, le dernier bouquin, un bouquin d'une autrice états-unienne qui s'appelle Keys Johnson, Keys, Keys Johnson. Le bouquin s'appelle Un pont sur la brume, voilà le rapport. Donc écrit en 2011, publié aux États-Unis en tout cas en 2011 et publié en France, traduit par Le Bélial, les super émissions édition Le Bélial en 2016 dans la collection Une Heure Lumière. Si vous ne connaissez pas la collection Une Heure Lumière, c'est génial. C'est que des bouquins très très courts. C'est une sélection excellente de plusieurs dizaines de livres. Bref, voilà, donc c'est une autrice qui a la soixantaine d'années, donc c'est encore du contemporain. Et Un pont sur la brume, ça se passe dans un empire imaginaire. Alors c'est Moyen-Âge, Renaissance, style. Hein, voilà. Et ça suit un architecte. L'architecte est dépêché par l'Empire pour construire un pont au-dessus d'une brume. Alors, brume entre guillemets, c'est assez mystérieux parce que c'est une brume semi-solide avec des propriétés corrosives. Et dans cette brume vit des créatures un peu curieuses. Et lui doit absolument construire et faire vivre ce pont de plusieurs centaines de mètres en s'installant pendant plusieurs années dans un village sur une des deux rives et côtoyer les gens qui font passer d'habitude d'une rive à l'autre par un bac. Et c'est très très dangereux. C'est un fonctionnaire d'État. Ça parle des populations, des relations avec la population locale de ce fonctionnaire d'État, de la vie des ouvriers, de la vie et de la mort des ouvriers sur ces chantiers, comment les gens peuvent accepter des bouleversements ou pas profonds de la société, puisque ce pont va tout changer dans leur relation aux différentes parties de l'Empire. C'est un bouquin vraiment hyper agréable à lire, comme toute la sélection de chez Le Bélial dans Une Heure Lumière. Je m'arrête là. C'était Un pont sur la brume de Keith Johnson. Et puis, on va se retrouver normalement dans deux semaines pour une émission plus classique.
Si je suppose qu'il s'est passé quelque chose. Un deuxième c'est amusant, sur la route un peu plus loin, fuit de la même façon. On dirait que c'est urgent, il crie mais je n'entends rien et s'en va à reculons. Peu à peu l'idée s'impose qu'il s'est passé quelque chose.
qu'y a-t-il à l'arrivée qui provoque cette psychose? Il s'est passé quelque chose. Maintenant c'est une foule qui décampe sans raison et fuit quoi, je n'en sais rien. Et toujours ce train qui roule en dévorant l'horizon vers un probable destin, vers les faits, vers la cause. Il s'est passé quelque chose. De fumée et de poussière, ces lueurs d'apothéose, il s'est passé quelque chose.